I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Une production Binge Audio.
Salut, c'est Thomas Rozek.
Un quatrième cas de coronavirus a donc été identifié en France. Il s'agit d'un touriste chinois âgé qui se trouve dans un état grave. Il est originaire de la province de Hubei, d'où se propage l'épidémie.
En ce tout début février, revient sur le devant de la scène un sujet qui nous avait tenu bien occupés il y a près d'un an. Une équipe de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a été dépêchée en Chine, à Wuhan, qu'on estime comme étant le point de départ de la pandémie dans laquelle nous pataugeons encore et toujours. Leur but, entre autres, tenter de retracer le chemin qu'a pris le virus, et notamment mettre la main sur l'animal qui en fut le vecteur vers l'humain. Car après avoir longtemps blâmé ce pauvre pangolin, cette culpabilité initiale est désormais remise en question. Pour l'instant, peu de résultats aux enquêtes de l'OMS, mais un constat quand même. On ne parvient pas vraiment à se défaire de la vision quasi biblique que nous avons de l'épidémie. Et par là, j'entends l'idée persistante que tout ça fonctionne comme un châtiment tombé du ciel sur nos pauvres têtes. Un truc qui nous serait arrivé alors que nous n'avions rien fait, rien demandé. Évidemment, c'est loin, très loin d'être le cas, et c'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
Now, as the coronavirus outbreak continues to spread across the globe, a common public opinion is that the virus originated from a market in Wuhan, in China, from a pangolin.
Notre invitée, c'est la journaliste Marie-Monique Robin, documentariste de grand talent, prix Albert Londres en 1995 et spécialiste des questions environnementales. Elle signe ces jours-ci l'excellent livre « La fabrique des pandémies » avec la collaboration du chercheur Serge Morand. Dans cette enquête parue aux éditions de La Découverte, elle retrace, avec l'aide d'une soixantaine de scientifiques, le schéma de la crise pandémique qui est loin d'être inédit et qui devrait nous alerter bien plus.
Le début de cette enquête, c'était il y a tout juste un an. Je suis tombée sur un article dans le New York Times d'un collègue journaliste scientifique, David Quammen, qui disait « We made the pandemic », c'est nous qui sommes à l'origine, nous, c'est les humains. Quoi. Et je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? Évidemment, la question de la biodiversité m'a toujours intéressée, même si je n'avais pas travaillé précisément sur ce thème. Donc j'ai plongé dans ce sujet et j'ai vraiment découvert, ça c'était très impressionnant, ces centaines d'études, des milliers d'études, réalisé par des centaines de scientifiques qui montrent qu'il y a un lien direct entre la destruction de la biodiversité et ce qui nous arrive aujourd'hui. Et non seulement cette pandémie du Covid-19, mais aussi d'autres pandémies qui ont eu lieu avant. L'une des plus grandes d'entre elles, c'est quand même le sida. Parce qu'on a oublié qu'en fait, le sida, ça provient d'un virus qui était hébergé par des primates parce que les humains ont fait des incursions dans les forêts tropicales africaines. Et voilà. Mais vous pouvez prendre aussi chikungunya, Zika, le MERS, le Nipah. Enfin, la liste est très longue, en fait. Et là, on découvre que non seulement la biodiversité, c'est quelque chose d'important parce que c'est bon, enfin, on n'a pas envie que les oiseaux disparaissent, etc., mais qu'il y a des mécanismes qui ont été mis au jour par ces scientifiques qui montrent comment véritablement la biodiversité protège contre l'émergence de virus zoonotiques, comme on dit, donc issus de la faune sauvage, et que ces mécanismes, ils sont décrits. Donc quand on décrit un mécanisme, ça veut dire qu'il y a des causes qu'on peut identifier, donc on peut agir et pour au moins prévenir les prochaines pandémies. Voilà. Et ça, c'est étonnant de voir finalement à quel point ces études ne sont pas connues. Et quelque part aussi, c'est ce que j'écris dans le livre, c'est rassurant. On décrit ces mécanismes, ça veut dire qu'on a des solutions. Voilà. Et quelque part, ça remet aussi de la cohérence dans ce que j'appelle ce grand bordel général, parce que c'est vrai, quoi. C'est très inquiétant. Et vous avez vu comment les scientifiques que j'ai interviewés aussi sont très inquiets, parfois déprimés, parce qu'ils voient que nous sommes dans une gestion à très court terme de cette crise pandémique, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher des traitements ou même des vaccins. Mais que si on s'arrête à ce genre de gestion court-termiste, et qu'on ne tient pas compte de ce que disent ces scientifiques, c'est-à-dire qu'il faut maintenant aussi prendre des mesures qui auront un impact à moyen terme, voire à long terme, mais qui seront très efficaces, bah, l'avenir va être très sombre, quoi. Voilà.
Qu'est-ce qui fait, d'après vous, que vous avez cité les différentes pandémies qui sont régulières, malgré tout, on a tendance un peu à l'oublier, mais qui ont émaillé l'actualité et nos vies depuis une trentaine d'années. Vous parlez d'ailleurs d'épidémie de pandémie, le terme revient dans le livre. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, on oublie l'impact humain et on semble le redécouvrir en cours de route à chaque nouvelle situation pandémique?
Je donne souvent l'exemple du virus Nipah parce que je trouve que c'est une bonne illustration de tous ces facteurs qui vont à un moment converger et faire qu'il y aura ce qu'on appelle un outbreak en anglais, c'est-à-dire une flambée d'un nouveau virus, d'une nouvelle épidémie. Le virus Nipah apparaît en 1997 en Malaisie. C'est quoi l'histoire? On déforeste l'île de Bornéo, une forêt primaire, pour planter des plantations à huile de palme. Les chauves-souris qui sont dans cette forêt sont évidemment obligées de fuir parce qu'on détruit leur habitat. Elles vont se mettre à stresser, mais quand elles stressent, elles se mettent à excréter, alors parce qu'elles font caca, elles stressent, vous voyez, elles transpirent, enfin les urines, enfin, etc. Elles sont obligées de partir, elles se rabattent sur les côtes de Malaisie qui sont toutes proches, où on a installé des élevages de porcs intensifs mais en plein air, et en plus des arbres fruitiers, parce que c'est une double production, des manguiers, etc. Ces chauves-souris sont frugivores, elles mangent des fruits, donc évidemment elles crèvent la dalle parce que, voilà, elles mangent les mangues, elles font des fientes, enfin voilà, et qui vont contaminer dessous les porcs. Les porcs, ce sont des animaux très proches de nous. On partage 95% de nos gènes avec eux. Donc, c'est un très bon pont pour qu'un agent pathogène qui vient d'une chauve-souris passe à l'homme. Donc, les porcs sont contaminés, contaminent les ouvriers agricoles de ces fermes porcines. Les porcs étaient destinés à l'exportation. Ils transitaient par Singapour dans les abattoirs. Et évidemment, les ouvriers des abattoirs sont contaminés. Et voilà. Donc là, vous avez tout. Déforestation, n'est-ce pas? Production intensive animale. Globalisation, ça voyage, quoi. Et ça, c'est vraiment les facteurs qui vont faire qu'on est en face d'une bombe biologique, en fait. Hein. Donc ça, on retrouve ce schéma à peu près dans toutes ces nouvelles maladies infectieuses. Effectivement, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vous dit que jusque dans les années 1970, il y avait en gros une émergence tous les 15 ans. Et aujourd'hui, c'est de 1 à 5 par an. Vous voyez ? Donc, c'est énorme, quoi. Alors, pourquoi on ne connaît pas ça ? On ne connaît pas ça d'abord parce qu'il faut prendre le temps de se pencher sur ces études, ce qui n'est pas fait. Deux, c'est compliqué. Quand je vous raconte cette histoire, on dit c'est dingue. Et ça peut arriver une fois, pas deux, mais si, ça arrive systématiquement. Mais il faut. Vous voyez, ce sont des facteurs dont certains sont écologiques, dont d'autres sont humains, d'autres sont liés au commerce international. Donc, c'est toute une série de facteurs qui ne sont pas forcément faciles à comprendre tout de suite, quoi. Vous voyez ? Et c'est ça qui fait la difficulté aussi. Il y a un chercheur dans le livre qui me dit, Rodolphe Gozlan, qui travaille en Guyane et qui a fait un travail extraordinaire, qui montre justement comment, quand on prend les cartes de déforestation en Guyane et la carte des maladies infectieuses émergentes, ben, ces cartes-là se superposent. Eh bien, il dit, oui, c'est difficile pour le commun des mortels et pour l'homme politique de comprendre que si tu abats des forêts en Guyane ou en Amazonie, donc, hein, eh bien, tu vas provoquer une maladie à l'autre bout de la planète. Mais pourtant, c'est ça. C'est ça qui se passe.
Ce que vous notez aussi, et c'est assez fascinant à observer, c'est le reproche qui est fait à celles et ceux qui arguent de cette importance du facteur humain, d'être dans une forme de récupération politique en faveur des mouvements écolos, des mouvements qui, depuis des années déjà, alertent sur ces situations, sur cette organisation vicieuse de notre économie et de notre environnement. C'est systématique.
Mais on a le même mécanisme que pour le climat. On avait les climato-sceptiques et maintenant on a les biodives sceptiques. Pourquoi ? Parce que derrière ça, il y a quand même les solutions, on les connaît. Les solutions, ça voudrait dire par exemple qu'on prend des mesures internationales pour arrêter de déforester, c'est-à-dire qu'on arrête, on ne touche plus aux forêts tropicales. Bon. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on arrête d'importer de l'huile de palme pour mettre dans nos réservoirs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne signe pas, par exemple, l'autorisation, comme ça a été fait récemment par le gouvernement, une autorisation donnée à Total, avec une raffinerie dans les Bouches-du-Rhône, pour importer l'huile de palme d'Indonésie pour mettre dans nos réservoirs. Ça veut dire qu'on arrête d'importer du soja transgénique d'Argentine, sujet que je connais très bien, pour nourrir les élevages industriels européens. Donc, vous voyez, c'est une remise en cause quand même du modèle économique dominant. Ce qu'on comprend aussi à travers ces entretiens avec les scientifiques, c'est que ce sont les mêmes causes qui provoquent la destruction de la biodiversité et le dérèglement climatique. Et maintenant, on sait aussi que ce sont les mêmes causes qui provoquent ce risque sanitaire énorme. On parle de quatrième transition épidémiologique, hein. C'est pas rien, quoi. Donc, ces causes, on les connaît, il faut s'y attaquer, et ça veut donc dire bien qu'on change le modèle économique dominant et voilà, et ça ne plaît pas à tout le monde.
Le terme que vous utilisez dans le titre est très important, la fabrique des pandémies, parce que ce qu'on comprend une fois qu'on fait le tour des différents exemples que vous citez, des différents facteurs aggravants de cette situation, ou facteurs déterminants dans cette situation, c'est que c'est quasiment plus un problème industriel qu'autre chose. C'est-à-dire que c'est un problème lié à la manière dont on produit et fabrique les choses dans le monde et dont on dépend les uns des autres pour les consommer par la suite.
Bien sûr. Nous, les citoyens, nous devons comprendre que par nos choix de consommation, nous avons directement un impact sur ce qui se passe dans les forêts de Malaisie ou à l'Amazonie ou en Afrique. Et on ne peut plus déconnecter ça. Il faut reconnecter ça. Tous ces mécanismes sont très bien identifiés. Et si on veut échapper à ce que donc ce futur funeste qui est donc une ère de confinement chronique, avec des pandémies qui pourraient arriver bien pires que celle qui a mis l'économie à genoux depuis un an, la Covid-19, on sait ce qu'il faut faire. Il faut préserver la biodiversité. C'est à tous les niveaux, quoi. Nous souffrons actuellement, parce qu'on détruit la biodiversité, donc, résultat, le risque infectieux augmente, mais nous sommes aussi plus vulnérables parce qu'il n'y a plus de biodiversité dans nos environnements urbains et occidentaux, par exemple, qui fait que nous avons des défenses immunitaires qui sont très réduites et qui vont faire que, justement, quand se pointe un virus comme le SARS-CoV-2, pour certains d'entre eux, ça peut être fatal. Voilà. Donc là, on voit vraiment que la biodiversité, elle est au cœur de tout ça, quoi. Et qu'il est très urgent de la considérer comme une grande cause, au même titre que le climat. Et en plus, il se trouve que ces deux défis qui caractérisent l'anthropocène, le 21e siècle, sont liés. On a envie de dire aux hommes et aux femmes politiques, qu'est-ce que vous attendez, quoi ? Parce que si on prend les bonnes mesures, c'est ce qu'on appelle du gagnant-gagnant-gagnant. C'est-à-dire que ce sont des mesures qui servent à protéger la biodiversité, très important pour la survie de l'humanité, qui sont bonnes pour le climat et qui sont bonnes pour la santé. Ça doit être vraiment une cause internationale absolument capitale.
L'une des difficultés, évidemment, et je sais que le sujet vous passionne depuis de nombreuses années, c'est de réussir à réenchanter ces sujets. Réenchanter, non pas dans le sens de les rendre glamour ou quoi que ce soit, mais de redonner confiance, notamment à une certaine frange de la jeunesse, dans l'idée que nous sommes en capacité d'inverser le cours des choses. Moi, je suis né dans les années 80 et j'ai grandi avec cette idée que nous étions dans un monde de toute façon en crise et qu'on ne pouvait pas y faire grand-chose. Il y a toujours cette idée-là qui traîne et qui revient régulièrement. Comment est-ce qu'on remet de l'espoir dans tout ça, justement?
C'est difficile d'imaginer l'inimaginable, en fait, qui est l'humanité, pour la première fois de son histoire, qui est une histoire très courte, si on pense à l'histoire de la planète, mais voilà, elle peut disparaître. Voilà. Alors ça, c'est très, très inquiétant et ça fait peur. Et c'est normal que ça fasse peur. Mais moi, je pense aussi qu'il est encore temps d'inverser la vapeur, si j'ose dire. Enfin, les solutions, on les connaît. Et donc, c'est important de savoir. On sait quelles sont les solutions. Eh bien, on peut agir pour que ces solutions soient mises en œuvre. Et moi, je considère que mon rôle, c'est de rendre ce futur désirable, c'est-à-dire la société qu'on aimerait voir émerger, qui reposerait sur ce qu'on appelle en anglais le care, le soin, prendre soin des environnements, des écosystèmes, mais aussi des animaux sauvages, domestiques, et des humains, évidemment. Donc voilà, qui remplacerait l'obsession de la croissance, par exemple. Voilà. Et moi, quand je vois tous ceux qui et celles qui, déjà, là où ils sont, là où ils vivent, mettent ça en œuvre, eh bien, je vois que c'est source de bonheur. Et ça donne du sens. Voilà. Donc, c'est désirable, véritablement. Et moi, quand j'écoute les 62 scientifiques qui sont dans mon livre, là, ils sont déprimés aujourd'hui parce qu'ils voient que, voilà, on ne prend pas des mesures, on est dans le court terme, comme je disais tout à l'heure. Mais en même temps, ils vous disent, on peut y arriver, on a besoin des citoyens pour pousser les politiques à prendre les bonnes mesures, mais on peut y arriver. Et si on y arrive, non seulement on sauvera l'humanité, les écosystèmes, etc., mais ça sera un monde où il fera meilleur, enfin, on vivra mieux. Voilà. Et ça, c'est quand même un message d'espoir. Mais ça n'empêche pas qu'il faut faire vite, vous voyez. Alors quand on est comme moi je me considère comme une passerelle. Je continuerai de soutenir ce que j'appelle les lanceurs d'avenir, tout en continuant de soutenir les lanceurs d'alerte, hein, ceux qui dénoncent les dysfonctionnements. Mais les lanceurs d'avenir, c'est aussi ces scientifiques qui sont dans mon livre, hein, qui ont vraiment fait des travaux extraordinaires, souvent méconnus, pas encouragés, parce que dans la recherche, aujourd'hui, on souffre beaucoup d'une organisation, ce qu'on appelle en silo, hein, discipline par discipline, où les projets transversaux ne sont pas soutenus par les organismes de recherche et de financement de la recherche. Donc, ils ont vraiment, ils sont battus, etc. Mais ils les ont fait, ces travaux, ils sont de plus en plus nombreux. C'est très touchant dans le livre, hein, de voir comment un zoologue, un parasitologue, un virologue, qui était dans sa discipline et qui a développé une excellence, mais à un moment, comprend ce qui se passe, fait un pas de côté et se rend compte qu'on ne peut pas continuer à travailler sur les virus sans s'occuper de ce qui se passe autour et quels sont les liens avec les activités humaines dans l'apparition de nouvelles épidémies. Et qui et tous hein, vous disent, à un moment, ça fait un déclic, quoi, hein, et qui maintenant veulent parler et veulent... D'ailleurs, le dernier chapitre, c'est étonnant parce que ce ne sont que des scientifiques qui nous disent voilà ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qui vont dans le domaine politique, parce que quand on dit voilà ce qu'il faut faire, parce qu'ils disent c'est très urgent de parler vu les défis que nous devons relever. Voilà. Mais il faut pas perdre espoir. Il faut être lucide. Donc moi je dis souvent maintenant ce que je vous ai dit, c'est très urgent, c'est très grave. Mais allons-y, mobilisons-nous, agissons, transformons nos modes de vie déjà, parce qu'on voit bien qu'on est dans une impasse. Et puis agissons au niveau politique aussi, parce que ça veut dire on a besoin de maires dans les villes qui comprennent que les arbres, c'est fini, on ne doit plus les abattre. Partout, on peut mener des combats en se rapprochant des autres, de nos concitoyens, pour dire stop, ça suffit, vous voyez. Et puis aussi, aider les hommes et les femmes politiques à prendre des bonnes décisions. Voilà.
Et le livre de notre invité, La Fabrique des Pandémies, il est dispo, je le rappelle, aux éditions de La Découverte. Merci à Marie-Monique Robin pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée. Et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.